Chapitre 16, l'embuscade. Chico, on le sait, n'était pas long à prendre un parti. Il prit celui d'attendre, et cela le plus commodément possible. À travers l'épaisseur de la charmille, il se fit une fenêtre pour ne point laisser passer inaperçus les allants et les venants qui pouvaient l'intéresser. La route était déserte. Au plus loin que la vue de Chico pouvait s'étendre, il n'apparaissait ni cavalier, ni curieux, ni paysan. Toute la foule de la veille s'était évanouie avec le spectacle qu'il avait causé. Chico ne vit donc rien qu'un homme assez mesquinement vêtu qui se promenait transversalement sur la route et prenait des mesures avec un long bâton pointu sur le pavé de Sa Majesté le roi de France. Chico n'avait absolument rien à faire. Il fut enchanté d'avoir trouvé ce bonhomme pour lui servir de point de mire. Que mesurait-il? Pourquoi mesurait-il? Voilà quelles furent, pendant une ou deux minutes, les plus sérieuses réflexions de maître Robert Briquet. Il se résolut donc à ne point le perdre de vue. Malheureusement, au moment où, arrivé au bout de sa mesure, l'homme allait relever la tête, une plus importante découverte vint absorber toute son attention en le forçant de lever les yeux vers un autre point. La fenêtre du balcon de Goranflot s'ouvrit à deux battants et l'on vit apparaître la respectable rotondité de Don Modeste, lequel, avec ses gros yeux écarquillés, son sourire des jours de fête et ses plus galantes façons, conduisait une dame presque ensevelie sous une mante de velours garnie de fourrure. « Oh !» se dit Chico, « voici la pénitente. L'allure est jeune. Voyons un peu la tête. Là, bien, tournez-vous encore un peu de ce côté. À merveille ! Il est vraiment singulier que je trouve des ressemblances à toutes les figures que je vois. Fâcheuse manie que j'ai là. Bon, voilà l'écuyer à présent. Oh ! Quant à lui, je ne me trompe pas, c'est bien Menneville. Oui, oui, la moustache retroussée, l'épée à coquille, c'est lui-même. » Mais raisonnons un peu, si je ne me trompe pas pour Menneville, ventre de biche, pourquoi me tromperais-je pour madame de Montpensier? Car cette femme est, oui, morbleu, c'est la duchesse. Chico, on peut le croire, abandonna dès ce moment l'homme aux mesures pour ne pas perdre de vue les deux illustres personnages. Au bout d'une seconde, il vit apparaître derrière eux la face pâle de Borromée, que Menneville interrogea à plusieurs reprises. « C'est cela, dit-il, tout le monde en est, bravo, conspirons, c'est la mode, mais que diable, la duchesse veut-elle par hasard prendre pension chez Don Modeste, elle qui a déjà la maison de Bellesba à 100 pas d'ici ?» En ce moment, l'attention de Chico éprouva un nouveau motif d'excitation. Tandis que la duchesse causait avec Goranflot, ou plutôt le faisait causer, monsieur de Menneville fit un geste à quelqu'un du dehors. Chico pourtant n'avait vu personne, excepté l'homme aux mesures. C'est qu'en effet, c'était à lui que ce geste était adressé. Il en résultait que l'homme aux mesures ne mesurait plus. Il s'était arrêté en face du balcon, de profil et la face tournée du côté de Paris. Goranflot continuait ses amabilités avec la pénitente. Monsieur de Menneville glissa quelques mots à l'oreille de Borromée et celui-ci se mit à l'instant même à gesticuler derrière le prieur d'une façon inintelligible pour Chico, mais claire à ce qu'il paraît pour l'homme aux mesures, car il s'éloigna, se posta dans un autre endroit où un nouveau geste de Borromée et de Menneville le cloua comme une statue. Après quelques secondes d'immobilité, sur un nouveau signe fait par frère Borromée, il se livra à un genre d'exercice qui préoccupa d'autant plus Chico qu'il lui était impossible d'en deviner le but. De l'endroit qu'il occupait, l'homme aux mesures se mit à courir jusqu'à la porte du prieuré, tandis que monsieur de Menneville tenait sa montre en main. « Diable, diable !» murmura Chico, « tout cela me paraît suspect. » L'énigme est bien posée, mais si bien posée qu'elle soit, peut-être en voyant le visage de l'homme aux mesures, la devinerai-je. En ce moment, comme si le démon familier de Chicot eût tenu à exaucer son vœu, l'homme aux mesures se retourna et Chicot reconnut en lui Nicolas Poulain, lieutenant de la prévôté, le même à qui il avait vendu la veille ses vieilles cuirasses. « Allons, fit-il, vive la ligue! J'en ai assez vu maintenant pour deviner le reste avec un peu de travail. Eh bien, soit, on travaillera. » Après quelques pourparlers entre la duchesse Gorenflot et Menneville, Borromée referma la fenêtre et le balcon demeura désert. La duchesse et son écuyer sortirent du prieuré pour monter dans la litière qui les attendait. Dont Modeste, qui les avait accompagnés jusqu'à la porte, s'épuisait en révérence. La duchesse tenait encore ouverts les rideaux de cette litière pour répondre aux compliments du prieur, lorsqu'un moine jacobin, sortant de Paris par la porte Saint-Antoine, vint à la tête des chevaux, qu'il regarda curieusement, puis aux côtés de la litière dans laquelle il plongea son regard. Chicot reconnut dans ce moine le petit frère Jacques, revenu à grands pas du Louvre et demeuré en extase devant madame de Montpensier. « Allons, allons, dit-il, j'ai de la chance. Si Jacques était revenu plus tôt, je n'eusse pu voir la duchesse forcée que j'eusse été de courir à mon rendez-vous de la Croix-Faubin. Maintenant, voici madame de Montpensier partie, après sa petite conspiration faite. C'est le tour de maître Nicolas Poulain. Dans celui-là, je vais l'expédier en 10 minutes. » En effet, la duchesse, après avoir passé devant Chicot sans le voir, roulait vers Paris et Nicolas Poulain s'apprêtait à la suivre. Comme la duchesse, il lui fallait passer devant la haie habitée par Chicot. Chicot le vit venir, comme le chasseur voit venir la bête, s'apprêtant à la tirer quand elle serait à portée. Quand Poulain fut à la portée de Chicot, Chicot tira. « Eh, l'homme de bien, dit-il de son trou, un regard par ici, s'il vous plaît. » Poulain tressaillit et tourna la tête du côté du fossé. Ah, « vous m'avez vu, très bien, continua Chicot. Maintenant, n'ayez l'air de rien, maître Nicolas Poulain. » Le lieutenant de la prévôté bondit comme un daim au coup de fusil. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, « et que désirez-vous ? » ?»«
Qui je suis ?»«
Oui. »
« Je suis un de vos amis, nouveau, mais intime. Ce que je veux, ah, ça, c'est un peu plus long à vous expliquer. »
« Mais enfin, que désirez-vous? Parlez !»«
Je désire que vous veniez à moi. »«
À vous ?»«
Oui, ici, que vous descendiez dans le fossé. »«
Pourquoi faire ?»«
Vous le saurez, descendez d'abord. »«
Mais... » »«
Et que vous veniez vous asseoir le dos contre cette haie. »«
Enfin,
sans regarder de mon côté, sans que vous ayez l'air de vous douter que je suis là. »«
Monsieur... »
« Ah, c'est beaucoup exigé, je le sais bien, mais que voulez-vous? Maître Robert Briquet a droit d'être exigeant. »«
Robert Briquet !»
s'écria Poulain, exécutant à l'instant la manœuvre commandée. « Là, bien, asseyez-vous, c'est cela. Ah, il paraît que nous prenions nos petites dimensions sur la route de Vincennes. »«
Moi ?»
Et sans aucun doute. Après ça, qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'un lieutenant de la prévôté fasse l'office de voyer quand l'occasion s'en présente?
C'est vrai, dit Poulain un peu rassuré. Vous voyez, je mesurais.
D'autant mieux, continua Chicot, que vous opériez sous les yeux de très illustres personnages.
De très illustres personnages, je ne comprends pas.
« Comment, vous ignoriez ?
Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »«
Mais cette dame et ce monsieur qui étaient sur le balcon et qui viennent de reprendre leur course vers Paris, vous ne savez point qui ils étaient ?
Je vous jure !
Ah, comme c'est heureux pour moi d'avoir à vous apprendre une si riche nouvelle. Figurez-vous, monsieur Poulain, que vous aviez pour admirateur, dans vos fonctions de voyer, madame la duchesse de Montpensier et monsieur le comte de Menneville.
Ne remuez pas, s'il vous plaît.
Monsieur, dit Nicolas Poulain, essayant de lutter, ces propos, la façon dont vous me les adressez.
Si vous bougez, mon cher monsieur Poulain, reprit Chicot, vous m'allez pousser à quelque extrémité. Tenez-vous donc tranquille.
Poulain poussa un soupir. « Là, bien, continua Chicot, Je vous disais donc que, venant de travailler ainsi sous les yeux de ces personnages, et n'en ayant pas été remarqué, c'est vous qu'il prétendait ainsi, je disais donc, mon cher monsieur, qu'il serait fort avantageux pour vous qu'un autre personnage illustre, le roi par exemple, vous remarquât.
Le roi?
Sa Majesté, oui, monsieur Poulain, elle est fort portée, je vous assure, à admirer tout travail et à récompenser toute peine.
Monsieur Briquet, par pitié.
Je vous répète, cher monsieur Poulain, que si vous remuez, vous êtes un homme mort. Demeurez donc calme pour éviter toute disgrâce.
Mais que voulez-vous donc de moi au nom du ciel?
Votre bien, pas autre chose. Ne vous ai-je pas dit que j'étais votre ami?
Monsieur, s'écria Nicolas Poulain au désespoir, je ne sais en vérité quel tort je fais à Sa Majesté, à vous, ni à qui que ce soit au monde.
Cher monsieur Poulain, vous vous expliquerez avec qui de droit, ce ne sont point mes affaires. J'ai mes idées, voyez-vous, et j'y tiens. Ces idées sont que le roi ne saurait approuver que son lieutenant de la prévôté obéisse, quand il fait fonction de voyer, aux gestes et indications de monsieur de Menneville. Qui sait au reste si le roi ne trouverait pas mauvais que son lieutenant de la prévôté ait omis de consigner dans son rapport quotidien que madame de Montpensier et monsieur de Menneville sont entrés hier matin dans sa bonne ville de Paris. Rien que cela, tenez, monsieur Poulain, vous brouillerez bien certainement avec Sa Majesté.
Monsieur Briquet, une omission n'est pas un crime, et certes, Sa Majesté est trop éclairée.
Cher monsieur Poulain, vous vous faites, je crois, des chimères. Je vois plus clairement, moi, dans cette affaire.
Que voyez-vous? Une belle et bonne potence.
Monsieur Briquet,
attendez donc, que diable, avec une corde neuve, quatre soldats aux quatre coins cardinaux, pas mal de Parisiens autour de la potence et certains lieutenants de la prévôté de ma connaissance au bout de la corde.
Nicolas Poulain tremblait si fort que ce tremblement ébranlait toute la charmille.
Monsieur, dit-il en joignant les mains.
Mais je suis votre ami, cher monsieur Poulain, continua Chicot. Et en cette qualité d'ami, voilà un conseil que je vous donne.
Un conseil?
Oui, bien facile à suivre, Dieu merci. Vous allez de ce pas, entendez-vous bien, aller trouver...
Trouver, interrompit Nicolas, plein d'angoisse.
Mais trouver qui?
Un moment, que je réfléchisse, interrompit Chicot.
Trouver monsieur d'Épernon.
Monsieur d'Épernon, l'ami du roi?
Précisément. Vous le prendrez à part.
Monsieur d'Épernon?
Oui, et vous lui conterez toute l'affaire du toisé de la route.
Est-ce folie, monsieur?
C'est sagesse, au contraire, suprême sagesse.
Je ne comprends pas.
C'est limpide, cependant. Si je vous dénonce purement et simplement, comme l'homme aux mesures et l'homme aux cuirasses, on vous branchera. Si au contraire vous vous exécutez de bonne grâce, on vous couvrira de récompenses et d'honneurs.
Vous ne paraissez pas convaincu.
À merveille, cela va me donner de la peine de retourner au Louvre, mais ma foi, j'irai quand même, il n'est rien que je ne fasse pour vous. Et Nicolas Poulain entendit le bruit que faisait Chicot en dérangeant les branches pour se lever.
Ah, non, non, dit-il, restez ici, j'irai.
À la bonne heure. Mais vous comprenez, cher monsieur Poulain, pas de subterfuge, car demain, moi, j'enverrai une petite lettre au roi, dont j'ai l'honneur, tel que vous me voyez, ou plutôt tel que vous ne me voyez pas, d'être l'ami intime, de sorte que pour n'être pendu qu'après-demain, vous serez pendu aussi haut et court.
Je pars, monsieur, dit le lieutenant atterré, mais vous abusez étrangement.
« Moi ?
Oh, cher monsieur Poulain, élevez-moi des autels. Vous étiez un traître il y a 5 minutes. Je fais de vous le sauveur de la patrie.
À propos, courez vite, cher monsieur Poulain, car je suis très pressé de partir d'ici.
Pourtant, je ne puis le faire que quand vous serez parti.
Hôtel d'Épernon, n'oubliez pas. » Nicolas Poulain se leva et, avec le visage d'un homme désespéré, s'élança comme une flèche dans la direction de la porte Saint-Antoine. « Ah, il était temps, dit Chico, car voilà que l'on sort du prieuré. Mais ce n'est pas mon petit Jacques. Eh, dit Chico, quel est ce drôle taillé comme l'architecte d'Alexandre voulant tailler le mont Athos. Ventre de biche, c'est un bien gros chien pour accompagner un pauvre roquet comme moi. » Et voyant cet émissaire du prieur, Chico se hâta de courir vers la croix Faubin, lieu du rendez-vous. Comme il était forcé de s'y rendre par un chemin circulaire, la ligne droite eut sur lui l'avantage de la rapidité, c'est-à-dire que le moine géant, qui coupait la route à grandes enjambées, arriva le premier à la croix. Chico d'ailleurs perdait un peu de temps à examiner, tout en marchant, son homme, dont la physionomie ne lui revenait pas le moins du monde. En effet, c'était un véritable philistin que ce moine. Dans la précipitation qu'il avait mise à venir trouver Chico, sa robe de jacobin n'était même pas fermée, et on entrevoyait, par une fente, ses jambes musculeuses affublées d'un haut de chausse tout laïque. Son capuchon, mal rabattu, laissait voir une crinière sur laquelle n'avaient point encore passé les ciseaux du prieuré. En outre, certaines expressions des moins religieuses crispait les coins profonds de sa bouche, et lorsqu'il voulait passer du sourire au rire, il laissait apercevoir trois dents, lesquelles semblaient des palissades plantées derrière le rempart de ses grosses lèvres. Des bras longs comme ceux de Chico, mais plus gros, des épaules capables d'enlever les portes de Gaza, un grand couteau de cuisine passé dans la corde de sa ceinture, telles étaient, avec un sac roulé comme un bouclier autour de sa poitrine, les armes offensives et défensives de ce Goliath des Jacobins. Décidément, dit Chico, il est fort laid, et s'il ne m'apporte pas une excellente nouvelle avec une tête comme celle-là, je trouverai qu'une pareille créature est fort inutile sur la terre. Le moine, voyant toujours s'approcher Chico, le salua presque militairement. « Que voulez-vous, mon ami ?» demanda Chico. « Vous êtes Monsieur Robert Briquet ?»« En personne. »« En ce cas, j'ai pour vous une lettre du révérend prieur. »« Donnez. » Chico prit la lettre. Elle était conçue en ces termes. « Mon cher ami, j'ai bien réfléchi depuis notre séparation. Il m'est en vérité impossible de laisser aller au loup dévorant du monde la brebis que le Seigneur m'a confiée. » J'entends parler, vous le comprenez bien, de notre petit Jacques Clément, qui tout à l'heure a été reçu par le roi et s'est parfaitement acquitté de votre message. Au lieu de Jacques, dont l'âge est encore tendre et qui doit ses services au prieuré, je vous envoie un bon et digne frère de notre communauté. Ses mœurs sont douces et son humeur innocente. Je suis sûr que vous l'agréerez pour compagnon de route. « Oui, oui, » pensa Chico, en jetant de côté un regard sur le moine. « Compte là-dessus. Je joins à cette lettre ma bénédiction, que je regrette de ne vous avoir pas donné de vive voix. Adieu, cher ami. » « Voilà une bien belle écriture, » dit Chico, lorsqu'il eut fini sa lecture. « Je gagerai que la lettre a été écrite par le trésorier. Il a une main superbe. » « C'est en effet frère Borromée qui a écrit la lettre, » répondit le Goliath. « Eh bien, en ce cas, mon ami, » reprit Chico, en souriant agréablement au grand moine, « vous allez retourner au prieuré. Moi ?»« Oui, vous direz à sa révérence que j'ai changé d'avis et que je désire voyager seul. Comment ? Vous ne m'emmènerez pas, monsieur ?» fit le moine avec un étonnement qui n'était point exempt de menaces. « Non, mon ami, non. Et pourquoi cela, s'il vous plaît ?»« Parce que j'ai à faire des économies. Les temps sont durs et vous devez manger énormément. » Le géant montra ses trois défenses. « Jacques mange tout autant que moi, » dit-il. « Oui, mais Jacques était un moine, » fit Chico. « Et moi, que suis-je donc ?»« Vous, mon ami, vous êtes un lansquenet ou un gendarme, ce qui, entre nous soit dit, pourrait scandaliser la Notre-Dame vers qui je suis député. Que parlez-vous donc de lansquenets et de gendarmes ? Répondit le moine. Je suis un jacobin, moi. Est-ce que ma robe n'est pas reconnaissable ?
L'habit ne fait pas le moine, mon ami, répliqua Chicot, mais le couteau fait le soldat. Dites cela au frère Borromée, s'il vous plaît.
Et Chicot tira sa révérence au géant, qui reprit le chemin du prieuré en grondant comme un chien qu'on chasse.
Quant à notre voyageur, il laissa disparaître celui qui devait être son compagnon, et lorsqu'il l'eut vu s'engouffrer dans la grande porte du couvent, il alla se cacher derrière une haie, s'y dépouilla de son pourpoint et passa la fine chemise de maille que nous connaissons sous sa chemise de toile. Sa toilette achevée, il coupa à travers champs pour rejoindre le chemin de Charenton.